I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, Véronique Jacquier, Louis de Ragnel, Paul Melun et Gilles William Goldnadel. Deux semaines, bonsoir messieurs.
Bonsoir, bonsoir.
Deux semaines après l'audition de Cyril Hanouna à l'Assemblée nationale, c'était Yann Barthès qui a été auditionné par la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT. Il n'y a pas grand-chose à retenir, simplement, je vous avais dit que il y a un problème avec cette émission puisque tout est écrit, tout est sur prompteur et M. Barthès n'écrit rien et ne pense rien.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est une marionnette de son émission et c'est pourquoi je l'avais l'autre jour baptisé Jeff Panaclock. Bon, c'est vrai. Et vous avez pu voir cette séquence sidérante où il lit tout et à un moment il perd sa une note et il est incapable, sans doute, parce qu'il ne l'avait pas lu peut-être, de se souvenir ce qu'il doit dire. Et vous avez cette séquence ahurissante où il ne sait plus quoi dire parce qu'il n'a plus de feuilles devant lui. Regardons.
En bref, je suis fier de rendre, je l'espère, ne serait-ce qu'un peu les téléspectateurs curieux, curieux comme nous le sommes. Et il me manque la fin. Hop. Ah, il me manque la fin.
Vous en faites pas, ça nous arrive aussi. Hein.
Bah oui, j'imagine. C'est con, ça partait bien. Donc voilà, je voulais juste rappeler que malgré tout ça, quotidien, c'est zéro dérapage, zéro procédure de sanction, zéro amende, zéro mise en demeure de l'ARCOM, zéro mise en garde et aucune procédure en diffamation. Merci de m'avoir écouté.
Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, simplement ça. Moi, j'ai jamais attaqué quotidien. On m'a fait que répondre. C'est une émission qui utilise des montages, qui est une émission qui parfois fait dire aux gens l'exact contraire de ce qu'ils ont dit, ça nous est arrivé de nombreuses fois, et qui tournent en dérision en permanence avec des montages. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne veulent pas recevoir le Rassemblement National en direct, parce que les gens pourraient parler en direct et s'expliquer en direct. Donc comme tout est coupé, enregistré, etc., ça donne cette émission qui est une émission factice.
Ce que je trouve terrifiant, il y a le fond de ce que vous dites, désolé, je vais m'attarder sur la forme, c'est qu'il ne sait plus ce qu'il doit dire, mais pour dire des banalités absolues. Merci de m'avoir écouté.
C'est
un petit peu gênant. Et après, sur le
problème du
et moi, sur le fond, quand même, si on va quand même un peu parler du fond, moi, ce que je trouve terrible, et ce que je trouve terrible dans cette émission, c'est que souvent, ils prennent des petits Français qui n'ont rien demandé à personne. Et des gens souvent de conditions modestes, et ils les montrent du doigt et ils rigolent. Ça, et je trouve ça d'une méchanceté, d'une férocité.
Vous avez raison, dans le même genre, il y a Guillaume Meurice qui faisait ça sur France Inter. On prend un micro-trottoir et puis on tourne en dérision des personnes qui répondent en tronquant leurs propos, en prenant qu'un morceau. Moi, j'aime pas ça du tout. Je pense toujours à mes amis, mes voisins, ma famille. Quand je vois ça, je me dis, on n'a pas envie, quand on n'est pas rompu aux médias, d'être tourné en dérision par des marquis de la télévision. C'est assez désobligeant.
Écoutez, je vous dis, il n'y a pas grand chose à dire sur cette émission, cette audition.
Lisez votre papier, Pascal.
Pardon. Oui, non, mais c'est le problème des gens qui ne savent pas parler sans prompteur. Il y en a dans ce métier.
Oui.
Ils ne savent pas, et c'est pour ça qu'ils ne donnent jamais d'interview ni quoi que ce soit. Ils ne savent pas quoi dire.
Oui, mais Pascal, ce que je trouve intéressant, justement, c'est ce qu'il ne dit pas.
Moi, je lis personne.
Pardonnez-moi, monsieur.
Regardez, voilà.
Voilà votre prompteur.
Il est bon, le prompteur.
C'est bon, c'est tout. Dans la vie, tu n'as pas de prompteur. Tu ne vas pas écrire tes réparties, ce que tu vas dire. Tu te fais confiance à ce que tu as à dire.
Pascal, on est d'accord.
C'est invraisemblable d'être un journaliste avec un prompteur.
Il a pas tout le temps un prompteur, quand même, dans son émission.
Ce qui est intéressant.
Et oreillette.
Tout le temps, prompteur et oreillette, c'est des gens qui sont incapables de faire autrement. Excusez-moi, Véronique.
Oui, pardon. Non, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est ce qu'il ne dit pas. C'est la fébrilité qu'il dégage avec ses feuilles comme ça. Enfin, alors que ça montre qu'il est incapable de gérer la situation. Et secondo, quand même, on a l'impression qu'il déboule du pôle Nord avec sa polaire, là. Il sort du fond des bois, alors que c'est un homme de télé, c'est un homme de médias. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de pas maîtrisé, de contenu.
Mais il y a une forme d'irrespect aussi volontaire.
Il y a une forme d'irrespect, bien entendu.
En fait, c'est un irrespect mis en scène.
Oui.
C'est pour ça qu'en fait, moi, je les connais tous. Tout est faux. Voilà.
Non, mais c'est...
Et tout est faux. Et ce qu'il pense, et leur fausse naïveté, et leur fausse gentillesse, et leur fausse... Tout est faux. Voilà. Non. Et je les connais. Non, mais et jusqu'à la manière de s'habiller.
Tout à fait.
Parce que c'est une fausse décontraction et c'est un vrai respect qui est mis en
œuvre. Mais ce qui est...
pas grave.
Ce qui est à la fois fascinant et pathétique, c'est le décalage immense entre la faconde qu'il a à l'antenne et justement l'impossibilité, l'incapacité d'aligner spontanément trois mots. C'est dans cet écart abyssal qu'on voit l'imposture.
En même temps, si on veut le défendre, l'exercice, mais vous y êtes passé, Pascal, l'exercice n'est pas évident. Et très franchement, moi, je ne me réjouis pas que des journalistes soient mis en accusation devant des députés qui, comme le disait Caroline, c'était un peu la garde à vue. Quoi. Vous avez je ne me réjouis pas plus de ces passages.
Alors, très sincèrement, mon stock compassionnel n'est pas assez.
Vous avez raison. Bon, on ne va pas rester deux heures là-dessus. Je voulais simplement. Il y a une jeune femme. Il y a une jeune femme qui s'appelle Sophie Taillé-Polian. C'est une députée de la France Insoumise.
Ah, oui.
C'est elle qui a demandé l'arrêt de CNews.
D'accord.
C'est elle qui a demandé la pétition arrêt de CNews. Oui. Et effectivement, je comprends pourquoi Quotidien nous tape dessus, puisque Quotidien est sur cette ligne-là, puisqu'elle-même va dire à M. Barthez « Bravo pour ce que vous faites, bravo ». Mais ces gens-là ne se rendent même pas compte de l'imposture, comme vous l'avez dit. C'est ça qui est absolument sidérant. Écoutons ce qu'a dit cette dame-là dans l'audition.
Merci Monsieur Barthez d'avoir rappelé les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent. Ça devrait aller de soi finalement, mais malheureusement on sait que dans ce paysage audiovisuel actuel, eh bien ça va mieux en le disant et on peut voir sur d'autres chaînes que ce n'est pas le cas partout. Cela dit, je voulais vous interroger. Oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça, messieurs. Ah bah oui, on est antiracistes, oui, messieurs. Oui, c'est clair.
Je les connais tous depuis trop longtemps. Ils avancent le cœur en bandoulière, les humanistes ne sont pas ce qu'on croit, les antiracistes ne sont pas.
Ah oui, que la France insoumise, que la dame de la France insoumise.
Je peux vous le dire, mais vraiment pour les connaître dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée, les humanistes ne sont pas ce
qu'on croit. Que la dame de la France insoumise se targue d'être antiraciste, après l'épisode qu'on connaît depuis 7 octobre, c'est quand même parfaitement
et ce qui vient de se passer, et ce qui vient de se passer avec le proviseur,
bien sûr,
qui a été mis en cause, notamment par Madame Simonet, voilà,
qui n'écartait pas l'idée que Monsieur le proviseur avait été violent avec la jeune fille voilée,
en lui mettant une cible sur le. Enfin, on en parlera dans une seconde.
C'est quand même le baiser qui tue, entre nous soit dit. Hein.
Bon, dernière chose, justement, cette Madame Taillé-Polian, je lui renouvelle l'invitation que je lui avais faite lorsque nous étions passés dans cette audition. Écoutons. Oui.
Soyez certaine, madame, si vous venez sur mon plateau, et même si vous voulez que nous soyons que tous les deux, en tête à tête, je vous reçois avec plaisir.
Mais écoutez, moi, je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne, avec un animateur qui saura, je pense, ce sont mes conditions. Pour débattre justement du pluralisme de l'information et de la façon dont à CNews on peut, et sur d'autres chaînes, on peut ou pas avoir des débats apaisés, intéressants et constructifs.
D'ailleurs, la députée Génération.sg, LFI, elle n'a pas compris que je ne suis pas un homme politique. On ne fait pas de débat, arbitré par quelqu'un d'autre. Donc je veux bien la recevoir, mais par définition, je ne fais pas de débat avec elle.
Allez chez Barthès.
Ah ben si vous
voulez faire un débat,
on peut lui demander d'organiser ça.
En direct, je vais chez qui vous voulez.
Oui, bien sûr.
En direct. Mais je vais nulle part où il y a du montage.
je crois que c'est une sage précaution.
Parce que je les connais. Voilà, je les connais. Ouais. Bon, on a ce qu'on pouvait dire ce soir. L'information, il y a une tonne d'informations chaque jour. Bon, et même par mois, bien sûr. Celle d'aujourd'hui, je la trouve extravagante. Un proviseur menacé de mort a démissionné. Et le rectorat a dit que c'était pour convenance personnelle. Voilà où on en est en France aujourd'hui. Je trouve ça extravagant. Et ce que je trouve extravagant, c'est que très peu, finalement, de médias en parlent. France Inter n'en parle pas.
Parce que nous en avons parlé hier... Aujourd'hui, l'audiovisuel de service public en parle.
Bon, il n'y a pas un mot sur
Hier,
Libération.
Hier, ils n'en parlaient pas.
Il n'y a pas un mot, par exemple, dans Libération.
Exact.
Il n'y a pas un mot. C'est pour ça que l'objectivité, souvent, on est attaqué sur l'objectivité. C'est une tarte à la crème. Mais choisir des sujets, c'est déjà un choix qui est par définition un choix subjectif. Évidemment. Alors, est-ce que c'est une information importante ou pas? Est-ce qu'elle fait sens ou pas dans la société?
Que dit-elle, cette information?
Que dit-elle? Bon, moi, je pense que c'est une information très importante.
On peut légitimement penser qu'après Samuel Paty et Dominique Bernard, ça peut avoir du sens, un enseignant ou un proviseur menacé.
Bah, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen.
Après les assassinats de Gabriel Attal l'a reçu, quand même. Exactement. Non, mais si c'était vraiment inintéressant, si ça ne représentait rien dans la vie des gens, si ça disait rien du pays, Gabriel Attal, qui est objectivement débordé en ce moment, vient de faire un séminaire gouvernemental, n'aurait pas pris la peine de recevoir ce monsieur.
Marine Le Pen a tweeté après les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard par des islamistes, un proviseur démissionne, menacé de mort pour avoir fait respecter la laïcité. Valérie Pécresse également, tout mon soutien au proviseur du lycée Maurice Ravel. Je voudrais qu'on voit le sujet de Clotilde Payet et ensuite on écoutera Madame Belloubet.
Hier, les élèves et les parents de la cité scolaire Maurice Ravel ont été alertés du changement de proviseur. Son prédécesseur, menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile, a finalement démissionné alors qu'il avait été soutenu par Nicole Belloubet en personne. Le ministère de l'Éducation déclare même dans un communiqué avoir tout fait pour assurer la sécurité du proviseur après connaissance des faits.
Le parquet national de lutte contre la haine en ligne a dès lors ouvert une enquête du chef de menace de mort. Afin qu'il puisse être accompagné humainement et financièrement dans ses démarches judiciaires, le proviseur a bénéficié de la protection fonctionnelle octroyée par le ministère dès le vendredi 1er mars.
Certains professeurs montrent aussi leur soutien, d'autres souhaitent rester plus discrets.
Il y a une pression d'enfer, il est sur les réseaux sociaux, mis à mort sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible. On n'est pas tous sur la même ligne.
Vous avez des collègues à vous qui ne soutiennent pas forcément le proviseur, c'est ça?
Non, pas vraiment, qui n'ont pas trop envie qu'on monte ça en épingle.
Ne pas monter l'affaire en épingle, d'autant que les lycéens s'interrogent encore sur les faits.
Il y a eu beaucoup d'histoires différentes, je ne sais pas laquelle est la vraie. Il y a eu des histoires de violence, d'autres où il n'y en a pas eu.
Est-ce qu'il y a eu contact entre lui et la jeune fille?
Je sais pas, mais d'après elle, il lui a attrapé fort le bras.
L'élève en question avait déposé plainte contre le proviseur qu'elle accusait de l'avoir violenté lors de l'incident. La plainte a finalement été classée sans suite.
Alors, des témoignages de professeurs qui gardent l'anonymat, c'est un sujet chaud, dit l'un d'eux entre nous. Dès que ça touche la laïcité, c'est un incident récurrent, même en sortie scolaire. Elles estiment que nous ne sommes plus dans le cadre du lycée. Ils parlent des jeunes lycéennes, sans doute. On assiste à des séances de rhabillage devant l'établissement. Elles sont soutenues par des élèves et une partie des enseignants, ce qui est évidemment la phrase importante. Écoutez Madame Belloubet, ministre de l'Éducation nationale.
Sur la question du proviseur du lycée Maurice Ravel, juste un mot pour dire qu'il n'a pas démissionné. Il est en retrait et il doit prendre sa retraite. Il est en retrait, il doit prendre sa retraite au mois de juin ou de juillet. Et il est actuellement placé en position d'activité où il est rémunéré en ayant une autorisation spéciale d'absence. Et donc, il n'a pas démissionné, il est en autorisation.
Donc vous rendez compte, c'est effrayant. En fait, c'est effrayant. Je vous assure, c'est effrayant.
C'est terrible.
C'est effrayant. C'est-à-dire que c'est une élève qui a agressé un proviseur. Oui. C'est le proviseur qui. C'est tellement symbolique.
Vous avez raison.
C'est tellement symbolique de la France d'aujourd'hui. Et personne ne dit rien. Mais...
C'est symbolique de plusieurs choses. On nous bassine toute la journée avec la laïcité. Or, il n'y a plus de morale laïque. Tel qu'on l'entendait sous la Troisième République avec Jules Ferry. Il n'y a plus de morale dérivée de la morale chrétienne avec des valeurs intangibles. Là, on se rend compte qu'il y a une élève qui est capable de rentrer dans un lycée, de ne pas ôter son voile. Donc c'est elle qui, par essence, est condamnable. C'est effectivement le proviseur qui est condamné, mais en plus, l'élève est soutenu par une partie des enseignants. Mais c'est extrêmement choquant. Ça veut dire que les enseignants eux-mêmes ne respectent plus la fameuse morale laïque et ne respecte plus aucun principe. Comment vous voulez qu'on s'en sorte?
C'est pas possible. Patrice
Pascal,
Romain.
Ce qu'il faudrait, c'est une grande mobilisation transpartisane, transnationale, parce que sinon l'islamisme ne peut que continuer.
Moi, j'entends ce que vous dites, mais moi, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui en ont plus qu'assez d'entendre les discours « la République ne recule pas » et tout ça. Oui. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est simple, les gens veulent des actes. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que je suis convaincu qu'au fond, au sein de l'administration, au moment où ils ont appris le départ de ce proviseur, ils ont soufflé un ouf de soulagement parce qu'il n'y avait plus de problème. Le problème
est... Il y a un film qui sort là. Écoutez Patrice Romain, il est proviseur, ancien principal, plus exactement d'un collège. Écoutons-le.
comme d'habitude, c'est un chef d'établissement épuisé qui paie les pots cassés du pas de vague cher à l'éducation nationale, tout simplement. Et il y en aura d'autres, hein. C'est le premier d'une longue série, je vous le prédis. Durant toute ma carrière, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, que j'ai fait remonter à ma hiérarchie un problème d'atteinte à la laïcité, à chaque fois, la hiérarchie m'a donné tort. À chaque fois.
Ouais. Et Madame Belloubet, quel sens de l'humour, nous dit que ce soir, que c'est la fin du pas de vague.
Je viens à l'instant de recevoir le proviseur du lycée Maurice Ravel, où s'était déroulé, avec le Premier ministre, où s'était déroulé un refus d'ôter le voile par une élève de BTS, alors même qu'elle était dans l'enceinte du lycée. Donc j'étais allée, avec l'ensemble des services académiques, réaffirmer, bien entendu, le caractère tout à fait essentiel du respect de la laïcité. C'est le fondement de la République, c'est le fondement de notre école, c'est notre socle commun. Et nous devons évidemment absolument faire respecter ce principe-là. Je le dis clairement ici, le pas de vague, c'est terminé. Nous ne voulons plus de ça dans l'éducation nationale.
Alors moi, je vais vous dire, madame, le pas de vague, si vraiment il était arrêté, vous seriez allé dans cet établissement, vous mainteniez le proviseur en place et vous mettiez des policiers autour de cet établissement pendant 15 jours. Ça, c'est ça qu'on attend de vous. Et on n'attend pas que ce proviseur démissionne. C'est un scandale. Voilà.
Enfin, en attendant.
Mais bien sûr.
En attendant, ce que je pense, c'est que.
Mais ça dit tout de notre société. Hein. D'ailleurs, la manière dont elle parle, j'ai reçu le proviseur, elle a failli oublier le Premier ministre tout d'un coup.
Le plus grave, Pascal, c'est qu'en fait, avec des mots, on a l'impression que le problème est en train d'être réglé, alors que c'est tout le contraire. On ne cesse de reculer, ça continue. Mais regardez, je vous prends un exemple. Moi, c'est ce symbole.
On sait pas ce qu'elle est.
Samuel Paty. Oui, tout le monde a dit plus jamais ça. Vous savez quoi? Le lycée devait s'appeler Samuel Paty. Il s'appelle pas Samuel Paty parce qu'il y avait la crainte des réactions. Il y avait une statue à l'effigie de Samuel Paty.
Il n'y a plus rien.
Elle est toujours dans un garage. Elle dort dans un garage pour éviter les réactions de certains voisins.
Gilles William. Et personne n'interroge Madame Belloubet, personne ne lui dira « mais enfin vous vous fichez de nous quand vous dites qu'il n'y a pas de vague, il vient de démissionner ». Mais en fait vous vous fichez de nous, madame. Personne n'osera lui poser cette question parmi les journalistes.
Je crois que ce qui dominait avant l'assassinat de Samuel Paty dans le corps enseignant, c'est une cécité intellectuelle, morale et en plus une manière de complaisance envers l'islamisme. Je pense que les choses ont quand même en partie évolué, mais ce qui domine maintenant, c'est la peur.
Oui, c'est
ils
ça.
Ont peur.
Mais oui, justement, bien sûr, moi je suis
Vais vous dire quelque chose.
Et ils ont raison.
Ils ont raison d'avoir peur.
Exactement.
C'est ça, là.
Et on en est là.
Ils ont raison. Mais la leçon de cette histoire, c'est exactement ça.
C'est
la peur.
Pour ça que c'est fini.
Oui, mais eux, ils sont victimes de leur propre cécité. Oui. On n'en serait pas là s'ils avaient ouvert les yeux avant.
Mais la grande stratégie de l'islam politique en Europe et partout en Occident, et c'est pareil dans son passé, il faut lire ce qu'écrit Boualem Sansal là-dessus, c'est effectivement d'utiliser la peur pour permettre l'autocensure de tout un chacun. Aujourd'hui, quel journaliste, quel caricaturiste de presse osera caricaturer le prophète? Il sait ce qu'il en coûte de caricaturer le prophète. C'est pareil pour un professeur qui montrerait ses caricatures ou qui ferait de la laïcité son leitmotiv. Il s'expose à la mort. C'est ça le message des islamistes.
C'est plus facile
c'est
de caricaturer
dire, vous êtes face, absolument, vous êtes face, et France Inter le fait allègrement, vous êtes face à des gens qui feront tout pour vous terroriser et pour que vous viviez dans d'autres lois que celles de la République, de votre pays et de la France. C'est dramatique et à chaque fois qu'on se couche, on perd des kilomètres face à l'islamisme.
On va marquer une pause et nous allons revenir pour parler de l'audition de François Molins qui au fond dit la même chose que les magistrats. Il va sans doute se faire engueuler par lui aussi, par Éric Dupond-Moretti.
Compte tenu de l'état de leur relation, ça ne sera pas très grave.
Puisque ce que dit, c'est extraordinaire, c'est toujours les fameuses auditions.
Ouais, mais
c'est là qu'il faut écouter. Hein.
Oui.
Tout ce qui se dit.
Ça, c'est vrai. Mais monsieur François Molins a occupé toutes les plus hautes fonctions de la magistrature.
Oui.
Et je rejoins ce que dit Gilles William Golnadel. Moi, je l'ai écouté. Je me dis, bon, ça, il fallait le faire quand vous étiez en fonction, monsieur le procureur. Et quand on sait qu'il y a une haine
terrible,
indescriptible entre les deux hommes, ça diminue un peu la portée de l'attaque.
On va l'écouter dans une seconde.
C'est juste.
L'audition aujourd'hui de François Molins, il a été auditionné au Sénat, l'ancien procureur général auprès de la Cour de cassation. Il a exprimé aujourd'hui son incompréhension majeure après les reproches formulés à des magistrats par le garde des Sceaux en marge d'un déplacement anti-drogue à Marseille. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une querelle entre les deux hommes, c'est important quand même de le dire, et peut-être que ça enlève poids.
Oui.
Mais je voudrais qu'on écoute d'abord son analyse sur la drogue. On n'y arrive pas, dit Monsieur Molins.
Je pense qu'on est clairement face à un phénomène qu'on n'arrive pas à endiguer et qui grossit. Je crois qu'il y a déjà eu depuis 2017 ou 2018, il y a eu plusieurs plans nationaux de lutte contre le trafic de stupéfiants. Bon, avec beaucoup de moyens investis, beaucoup d'énergie policière, beaucoup d'énergie judiciaire, beaucoup d'énergie financière. Et effectivement, on voit que le problème ne cesse de s'accentuer. Donc en réalité, on n'arrive pas à l'endiguer, le problème grossit dans des proportions telles que... Ben, le narcotrafic finit par avoir des moyens inconsidérables qui, si on ne l'arrête pas, pourront finir par déstabiliser, j'allais dire, la puissance publique.
Bon, c'est quand même... Alors, tout le monde commence à dire la même chose.
Sur le constat, il a raison.
C'est-à-dire qu'on a parlé de cartel de Medellin hier, de...
D'Arcoville.
Exactement. On va entendre Éric Ciotti tout à l'heure. Mais c'est vrai que depuis... Par exemple, les choses vont vite. Il y a un an, personne ne disait ça, comme ça. Et en un an, tout a changé. C'est-à-dire qu'on va perdre la bataille, on n'y arrive plus, Narcoville. C'est des termes qui ont moins d'un an, je pense.
Oui, bien sûr.
Deuxième passage, c'est pas tant sur l'analyse des opérations PlaceNet, M. Molins n'y croit pas beaucoup, que sur les magistrats et le comportement du garde des Sceaux. Je le dis pour Benjamin Haut, c'est le troisième passage de M. Molins qu'on va écouter.
Je pense que ce sont ici et ailleurs des magistrats engagés au quotidien et qui vous ont dit la vérité avec une grande lucidité sur le combat qu'ils mènent au quotidien. Et si vous me permettez de poursuivre cet aparté, je dirais qu'ils me paraissent parfaitement irréprochables, ce qui m'amène à une incompréhension majeure face au comportement du garde des Sceaux à Marseille, face à cette remontée de bretelles, comme certains l'ont nommé, qui me paraît personnellement, moi, aux antipodes de l'office d'un garde des Sceaux qui est censé soutenir la justice, défendre son indépendance. Et je pense qu'il n'est pas convenable d'avoir ce type de comportement qui consiste à reprocher à des magistrats d'avoir dit la vérité devant des émanations de la nation et de la représentation nationale. Et je voudrais rappeler que les magistrats ne sont pas là pour venir au soutien ou à la justification des discours politiques des uns ou des autres, qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition. Ça n'est pas leur office.
Vous rendez compte que l'ancien procureur général près de la Cour de cassation entre en conflit avec le garde des Sceaux. Mais ce pays ne peut plus fonctionner.
Non mais ça...
Parce que là même, il y a un devoir de réserve que pourrait avoir M. Molins, pardonnez-moi de le dire comme ça. Ça peut exister
non, mais quand
même.
Ce qui est terrible, c'est
au nom de l'État, il y a parfois des choses qui peuvent te dépasser toi-même.
C'est encore plus grave quand il était en fonction, si je peux me permettre. Non, c'est vrai.
Même s'il a raison.
Il a entièrement raison sur la
réalité, c'est que...
Même s'il a raison.
Vous avouez que j'ai beaucoup plus d'affection pour M. Dupond-Moretti que pour M. Molins.
Vous êtes un avocat, évidemment.
Mais
vous êtes corporatif.
Écoutez, j'ai bien des défauts. J'ai bien des défauts, mais même mes pires ennemis ne me considèrent pas comme très corpo. Hein. Ça, non. Non, mais par contre, j'ai le regret de dire que M. Molins a raison. Je pense que Dupond-Moretti aurait mieux fait de ne rien dire, plutôt que de critiquer... des magistrats
non, c'est très grave.
Qui disaient avec beaucoup de dureté...
En plus. C'est grave ici. En réalité, c'est grave. C'est très grave.
Des choses vraies.
Alors est-ce que vous voulez voir cet échange entre Étienne Blanc, qui est un sénateur du Rhône aujourd'hui, LR, et Éric Dupond-Moretti? Parce que c'est vrai que moi j'aime
bien... Étienne Blanc co-présidait la commission d'enquête.
Exactement.
Voilà.
Et moi j'aime bien vous montrer, nous aimons bien vous montrer des séquences longues pour voir le climat et les arguments qui sont utilisés. C'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Vous allez voir la séquence, c'est au Sénat aujourd'hui.
Monsieur le garde des Sceaux, pouvez-vous confirmer que mardi dernier à Marseille, vous avez convoqué des magistrats du siège et du parquet que nous avions entendus dans le cadre de la commission d'enquête sur le narcotrafic placée sous la présidence de notre collègue Jérôme Durin? Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché d'avoir tenu le propos suivant? À Marseille, nous sommes en train de perdre la guerre contre le narcotrafic. Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché, en tenant ces propos, d'avoir fait prospérer le Rassemblement national? Monsieur le garde des Sceaux, pourquoi cette convocation?
Les magistrats sont libres, et j'ai d'ailleurs rappelé à mes homologues qu'ils étaient libres de leurs paroles, mais le ministre l'est aussi dans son expression, voyez-vous, parce que j'ai la charge du bon fonctionnement du service public de la justice, je ne retire rien des propos que j'ai tenus. J'ajoute que dès le lendemain, certains sont allés dire que c'était une véritable boucherie. Je ne suis ni boucher, ni charcutier, monsieur le sénateur. J'ai tenu les propos qu'un garde des Sceaux responsable peut tenir. Et enfin, j'ai exprimé, c'est vrai, à la suite des moyens considérables que j'ai envoyés à Marseille. Sachez qu'à Marseille, les renforts que nous avons envoyés correspondent au nombre total de magistrats, de greffiers, de contractuels que contient le tribunal de Rouen. Ça n'est pas rien. Et je vais vous dire, oui, j'ai dit que lorsque l'on exprimait l'idée qu'une guerre était perdue, on la perdait.
Quand le gouvernement convoque des magistrats du siège, que je sache, il viole délibérément le principe de séparation des pouvoirs protégé par notre Constitution. Quand le garde des Sceaux convoque des témoins que nous avons entendus dans le cadre d'une commission d'enquête sous serment, et que vous leur demandez quoi ? De se désister ? Vous leur demandez quoi ? De se parjurer ? Mais, monsieur le garde des Sceaux, cela s'appelle de la subornation de témoins, car la commission est encore en cours d'enquête. Et que nous ont-ils dit, ces magistrats ? Ils nous ont dit qu'à Marseille, oui, ils étaient dans des difficultés énormes pour parvenir à juger des réseaux de trafiquants et qu'ils subissent une vague sans précédent à laquelle ils ne peuvent faire face. Pire encore, dans les prisons sous lesquelles... Pire encore, ça vous déplaît, mais je vous apostrophe et vous êtes là pour me répondre. Je suis désolé de vous le rappeler, comme vous serez là pour répondre à la commission d'enquête. Oui, dans les prisons qui sont les vôtres et dont vous avez la responsabilité, les délinquants poursuivent le trafic, ils peuvent même commanditer des crimes. Voilà ce qui inquiète les Français et voilà pourquoi le Sénat a créé cette commission d'enquête qui vous déplaît profondément. Vous avez voulu instrumentaliser les témoins alors que la commission d'enquête est en cours. Le Sénat fera son travail jusqu'au bout pour prévenir les Français de ce phénomène de narcotrafic qui vous dépasse et qui dépasse le gouvernement. Il y va de l'honneur du Sénat.
Il est éloquent, monsieur.
Parfaitement raison.
Mais c'est très intéressant. C'est pour ça que c'est un peu long, forcément. Vous avez bien... Ce sont des séquences qu'on ne voit pas partout. Mais moi, je pense qu'il faut prendre le temps de les écouter. Et c'est vrai. Alors, subornation de Tébray ?
Non. Il ne va pas suborner. Toute la France entière est au courant. On en parle. Ce n'est pas une subornation de témoins.
Par contre, sur la séparation des pouvoirs, il a raison.
Écoutez, il a raison.
Sur le parjure, vous minimisez.
Constitutionnellement, il a raison.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous.
Je suis désolé.
Il n'y a pas de subornation de témoins.
Bah, attendez. Est-ce qu'il demande aux magistrats qui ont parlé sous serment de se parjurer ?
Voilà.
Oui ou non ?
Bien sûr. Non.
Moi,
je vais vous répondre.
Moi, pour moi.
Il se parjure d'ailleurs ou parjure.
De mon point de vue, je peux me tromper. Hein. Franchement, oui. Sur ce point-là, je peux me tromper. De mon point de vue, il avait même le droit de leur dire sa façon de penser, mais il a tort sur le fond. Ces magistrats se sont conduits avec courage et intelligence. Donc, ouais, il a tort sur le fond.
Mais est-ce qu'il a...
De là maintenant à lui faire un procès, un nouveau procès en subordination.
C'est pas un
procès.
Il est important. C'est... Mais... Bah, d'abord, il peut avoir un procès, pourquoi
Écoutez,
pas
moi, pour moi, les faits, sur le plan pénal, ça marche pas.
Bon, voilà, est-ce qu'ils ont témoigné c'est... Ma question était simple.
Mais il n'a pas essayé.
Vous
n'aviez pas à dire ça.
Vous faites le jeu du RN. Il leur fait faire de la
bouillie. Vous n'avez pas à dire ça. Or, ils sont sous serment.
Il n'aura pas dit, vous allez me faire plaisir de modifier
ce que vous avez passé.
Vous n'avez pas écouté. Mercredi dernier, il était invité d'Apolline de Malherbe sur RMC BFM TV et il dit à la place de la présidente du tribunal judiciaire de Marseille, il dit, elle regrette ses propos, elle ne voulait pas dire ça. Moi, j'ai entendu le garde des Sceaux, je n'ai pas entendu la personne en question. Deuxièmement, quand le garde des Sceaux dit à des magistrats qui parlent sous serment, attention, ce que vous dites, vous faites le jeu du Rassemblement National.
Non, mais
on s'en fiche du jeu ou pas du Rassemblement National. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent pour dire la vérité, la politique, ils s'en fichent. Et il faut qu'ils s'en fichent.
Allez,
c'est idiot, ça n'est pas délictuel.
Ça témoigne seulement de la violation d'un principe qui est fondamental dans notre République, qui est celui de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que ce ministre n'a pas à donner un certain nombre de consignes, y compris de consignes politiques, à des magistrats qui sont des lanceurs d'alerte en l'espèce et qui constatent ce que beaucoup de Français constatent sur le terrain. C'est peut-être ce qui déplaît souverainement au ministre.
D'accord. Avançons. Mais si ce pays en est là, entre autres depuis 40 ans, c'est précisément parce que le réflexe, ça fait le jeu du Rassemblement national, a été tellement présent dans toutes les prises de parole qu'on voit où on en est aujourd'hui.
La spécialité de M. Dupond-Moretti.
Évidemment, ça c'était M. Dupond-Moretti obsédé par le Rassemblement National et par Philippe Pétain. Donc,
il pouvait être obsédé par la résolution des trafics de drogue.
Ça serait intéressant qu'il comprenne qu'on est en 2024, M. Dupond-Moretti.
Il est meilleur avocat comme politique.
Restez avocat. Restez avocat, William.
Éric Ciotti, là aussi, ce qu'il a dit sur la narcocité, vous allez l'entendre, parce que ce qui s'est passé à Nice est effrayant. Mais ce qui s'est passé aussi aujourd'hui, personne n'en parle beaucoup. Ce qui s'est passé, par exemple, toutes les conséquences de l'immigration, on l'a en permanence sur le sol de France. À Roissy, aujourd'hui, il y avait un ressortissant kurde qui devait quitter le pays. Il y a eu une manifestation dans Roissy de Kurdes qui ne voulaient pas et qu'ils partent. Et il y a eu pendant une demi-heure de la violence. Alors vous verrez ça nulle part, bien sûr, c'est sur les réseaux sociaux. Mais en fait, toutes ces factures sont payées quotidiennement.
Ça montre la peur que l'État inspire à des gens qui sont sur le territoire national.
Ça montre aussi totalement...
Tranquille, manifester de manière violente.
Des Kurdes. C'est des Kurdes. Et qui ne souhaitaient pas qu'un ressortissant kurde soit expulsé. Pour des bonnes raisons, c'était légal. Alors, écoutons M. Ciotti sur la narcocité.
Ce qui s'est passé à Marseille, c'est une narcocité aujourd'hui. 49 homicides l'année dernière. Ce qui se passe dans ma ville à Nice, où depuis 48 heures, un quartier est à feu et à sang. 40 personnes hier se sont attaquées aux policiers, des règlements de compte à coups de marteau. C'est malheureusement, ce que me disait un policier récemment, ce qui guette le pays dans quelques années si on ne met pas un terme à ce fléau qui est à la source de la criminalité, de la violence.
De quoi parlait-il? Du quartier des Moulins. Je vous propose de voir le sujet à Nice.
Il a raison.
Cette place des Amaryllis, dans le quartier des Moulins à Nice, est devenue le théâtre d'affrontements sur fond de trafic de stupéfiants. Des scènes d'une violence inouïe.
Sur les affrontements, les personnes résidentes de la cité excédées par la situation liée au trafic de stupéfiants, mais également se sont joints à ce groupe de résidents des dealers d'autres points, qui se sont livrés à un lynchage sur de jeunes individus venus pour la majeure partie du Maghreb en situation irrégulière.
Lors de ces affrontements, 4 personnes ont été retrouvées blessées, dont un grave. Un policier a également été légèrement touché à la jambe par un projectile.
Une quarantaine d'individus, tous vêtus de noir, encapuchés, encagoulés ou avec des cache-coups, ont débarqué avec des couteaux, des marteaux.
Des violences qui pourraient être la conséquence des heurts qui ont éclaté lundi soir. La CRS 81 a rejoint les effectifs de police déjà déployés sur place.
Il y a certains résidents du quartier des Moulins qui ont voulu, entre guillemets, chasser ou régler leurs problèmes avec des mineurs isolés, des mineurs non accompagnés. Et là encore, les policiers sont intervenus. Et là encore, bien sûr, les situations se retournent contre nous.
Hier, le préfet des Alpes-Maritimes s'est rendu sur place pour délivrer un message de fermeté. Il promet de poursuivre les interpellations et les saisies de drogue. En un an, plus de 30 kilos ont déjà été interceptés dans le quartier des Moulins.
Est-ce qu'à ce stade, je peux me permettre de dire que ça a un lien évidemment insécable quand on entend que ce sont, par un policier, que ce sont des migrants sans papier, que ça a un lien, que cette situation dans laquelle on se trouve, que ce soit dans nos écoles ou dans nos cités, un lien insécable avec l'immigration invasive et qu'on a le droit de penser à la France avant de penser à l'Ukraine. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ?
Vous avez le droit de dire ça, et pour être tout à fait complet sur ce chapitre violence qui peut exister, sachez qu'un SDF, c'est à Nantes. Hier, Johanna de Roland donnait une grande interview à West France pour dire c'est formidable tout ce qui se passe à Nantes, pour le mieux. Bon, je me suis permis de dire effectivement tout va très bien, Madame la Marquise. Un jeune homme de 18 ans est suspecté à violer, ou aurait violé puisqu'il est présumé innocent. Déjà connu des services de police, a été interpellé lundi soir à Nantes, quartier Beaulieu.
Il est suspecté d'avoir violé une femme de 23 ans, je lis le papier du Figaro, qui rentrait chez elle. La scène donne le frisson. Il est 22h50, lundi 25 mars, lorsque la jeune femme est entraînée de force dans le local de son immeuble. Le suspect lui impose une fellation, lui met un sac poubelle dans la bouche, la frappe, l'étrangle, lui vole son téléphone et la viole. Ce jeune homme, il est sorti de prison il y a un mois.
Non. C'est qui ce monsieur?
C'est pas... Trois témoins font fuir l'individu grâce à un signalement précis de son profil. Les policiers l'arrêtent 40 minutes plus tard en possession du téléphone de la victime, etc.
Il n'y aura rien, monsieur, demain dans la presse.
À part ça, tout va bien, madame Roland. Alors, évidemment, à Nantes, monsieur Foulque Chambard de Lauve, qui est un conseiller municipal de l'opposition, c'est également un sujet. Triste épisode de la violence à laquelle on devrait s'habituer à Nantes. À part ça, tout va bien, madame Roland. Oui. Vous pouvez pavaner dans la presse. Soutien plein et entier à la pauvre victime. La lutte contre le sexisme commence par la lutte contre la violence faite aux femmes.
Elle a expliqué que le féminisme était une de ses priorités et qu'elle se satisfaisait que Nantes soit une ville féministe.
Madame Roland, que je sache, elle n'a toujours pas fait un tweet sur ce sujet.
C'est ça qui est fascinant.
C'est-à-dire que dans sa ville, il y a une jeune femme, mais elle n'en fait pas un tweet. Ça n'existe pas pour elle. Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
C'est un élu qui est complètement dépassé, comme l'a
dit. Ben oui.
On se rend compte qu'on est dépassé. Quand on voit ce qui se passe au Moulin, quand on n'associe pas le trafic de drogue à l'immigration, quand on parle effectivement des mineurs isolés.
C'est une nantaise, pas de compassion. Pour cette jeune femme de 23 ans, pas un mot pour ses parents.
Si on voulait être courageux, c'est tous nos principes démocratiques qu'il faudrait revisiter à l'aune de cette délinquance.
Mais vous m'empêcherez pas non plus de vous dire que la presse, qu'une certaine presse, préfère faire des tas avec l'affaire Godrèche il y a 40 ans. Sur laquelle on peut encore spéculer, mais pas sur cette affaire-là. Si vous ne voyez pas la différence abyssale, c'est que vous ne voyez rien.
Eh bien, moi, j'attends de Mme Roland un tweet de compassion pour cette jeune femme qui a
été violée
et pour ses parents. J'attends ça.
Vous avez raison.
C'est bête, hein.
On va attendre longtemps. Mais parce qu'elle est dans la négation, comme M. Piolle à Grenoble, comme M. Urmic à Bordeaux, comme la plupart des élus écologistes des grandes villes de France ou socialistes, elle est dans la négation du réel. Oui, mais il ne vous aura pas échappé qu'il y a une connivence entre les deux. Mais en tout cas, si vous voulez, elle est dans... En fait, si vous voulez, si elle admettait qu'il y a un problème d'insécurité ou d'immigration dans sa ville, ça l'emmènerait à se dédire sur tout son logiciel idéologique du vivre ensemble. C'est impossible pour elle. Par conséquent, elle représente ses électeurs, notamment la boboïsation de la ville de Nantes, comme la ville de Bordeaux, comme la ville de Grenoble, et elle fait leur politique, c'est-à-dire la négation du réel et le fait de faire vivre les gens dans un fantasme, celui d'un vivre ensemble qui serait inclusif, féministe et où tout irait bien.
Mais qui est menacé quand même par les vieux mâles blancs.
Sans abri, vous avez raison. 18 ans, déjà venu des services de police.
Bien sûr.
Je le rappelle. Nous pouvons... écoutez, on verra ce qui va se passer.
Il ne se passera rien. Enfin, bon, vous attendez à quoi?
Rien. Il se passe jamais rien. Gabriel Attal a pris la parole ce soir, il était au 20h, il annonce une plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'élève du lycée Maurice Ravel. Le Premier ministre a annoncé mercredi que l'État allait porter plainte. Et pourquoi il porte plainte qu'aujourd'hui, l'État? En fait, c'est parce qu'on en parle.
Bien sûr.
C'est bien. On n'en parlerait pas, il ne porterait pas plainte.
Oui. Il pourrait porter plainte aussi contre M. Daniel Simonet, dans ce cas-là. Qui avait envisagé aussi.
Alors, il y a eu la plainte de l'élève qui a été classée sans suite.
Oui.
Et c'est sans doute pour cela que le Premier ministre a porté plainte.
Donc, l'un n'empêche pas l'autre.
Non ?
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Après,
peut-être a-t-il attendu par
prudence que l'État, l'institution sera toujours à côté de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires, a fait valoir le chef du gouvernement sur TF1 au lendemain de l'annonce du départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, menacé de mort depuis l'incident.
C'est bien. Les mots sont intéressants, hein. C'est pas tentative d'entrisme islamiste, c'est déjà entrisme islamiste. On n'en est plus aux tentatives depuis
longtemps. Déjà, on progresse, il le constate. Par exemple, Pape Ndiaye, son prédécesseur, l'éducation, lui, il aurait préféré faire la sourde oreille.
Mais les Français veulent maintenant des actes. En fait, c'est toujours la même chose.
Bien sûr.
C'est-à-dire que je rebondis sur Nantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois catégories de gens. En fait, vous avez les gens qui veulent pas voir et qui s'en fichent complètement. Il y a ceux aussi qui parlent, mais qui ne font rien. Il y a aussi, la vie politique, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui condamnent toute la journée avec des larmes de crocodile et qui, de l'autre côté, n'agissent pas. Et ensuite, il y a ceux qui essayent d'agir.
Yann Brossa s'est exprimé sur drogue et mozzarella. Alors ça, suis tombé de ma chaise. Mais puisque fabriquer de la mozzarella plutôt que de la drogue, c'est possible, a-t-il dit. En Italie, ces mozza est fabriqué sur les terres confisquées aux trafiquants. Une confiscation automatique depuis 1982.
Il y a une
Sénat, je propose avec plusieurs sénateurs la mise en place d'une mesure similaire.
D'accord.
Donc il a mis également plusieurs...
Parce qu'il y a une méconnaissance de la réalité, parce qu'en Italie, non, mais en Italie, les mafieux ont du bien.
Attendez, je ne veux pas sourire, mais je vous dis,
en Italie, les mafieux ont du bien, ils ont des terres agricoles, ce n'est pas le cas en France. En France, les criminels et les pseudo-mafieux, enfin, les mafieux quand même, parce que ce qui se passe à Marseille, c'est une forme de mafia, ils planquent leur argent ailleurs, donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Enfin, c'est pas une bonne chose, pardon, ce que je propose.
Bon, réfléchir à la pensée de monsieur Brossa, moi, je veux bien.
Bon, les migrants délocalisés pendant les Jeux Olympiques à 4 mois des JO, évidemment, ça fait beaucoup parler. Le maire de la ville d'Orléans affirme que les cas arrivent quotidiennement dans sa ville sans qu'il en soit informé. Voilà. Et c'est le maire d'une ville. C'est-à-dire vous avez des procureurs, vous avez des maires. C'est pas pour des raisons politiques ou de base politique politicienne. Ce sont des gens qui parlent. Vous avez des magistrats qui disent, mais ce pays... qui témoigne de la réalité. Et là, vous avez un maire qui dit il y a des migrants qui arrivent, je suis même pas au courant.
Qui n'est déjà pas une ville.
Est-ce que vous avez écouté la réponse du gouvernement hier?
Ce ne sont
pas des migrants, Pascal.
Oui.
Ce ne sont pas des migrants, ce sont des SDF. La question qu'on pourrait
poser. Écoutons Yael Benamou.
Est-ce que vous connaissez des clandestins qui vivent sous un toit?
Voyons le sujet de Yael Benamou, après je vous donne la parole.
Dans cet hôtel, des migrants en provenance de Paris ont été transférés en bus à Orléans. Depuis mai dernier, cet hôtel s'est transformé en centre d'accueil temporaire. Il est géré par une association mandatée et financée par l'État.
Ils ont dit qu'ils ont trouvé des coins pour nous à Orléans, que nous serons logés là-bas et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont mis des bus en place et on nous a emmenés ici. Et là, jusqu'à maintenant, ça fait maintenant un an que nous sommes là.
Comme nous le prouve ce texto envoyé à un migrant, certains ont été contraints de quitter la capitale.
Un refus de départ ou une absence de présentation lundi entraînera une fin de prise en charge de l'hôtel. Bonne journée.
La préfecture du Loiret a justifié ces transferts en rappelant que les besoins d'hébergement d'urgence étaient saturés en Île-de-France. Mais selon le maire d'Orléans, l'arrivée de ces migrants sans domicile fixe s'est faite en catimini. Il dénonce la politique du gouvernement.
En tant que citoyen, je dis, il serait temps quand même d'avoir une vraie politique migratoire dans ce pays et d'assumer ses responsabilités. Je demande que les lois de la République s'appliquent et que les personnes qui sont en situation irrégulière soient expulsées du territoire, ce qui est parfaitement logique. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des lois.
La préfecture du Loiret a démenti tout lien entre l'arrivée de migrants à Orléans en provenance de Paris et la tenue prochaine des Jeux Olympiques.
Et tout n'est que mensonge, bien évidemment.
Mais depuis le début de l'histoire, c'est pour nettoyer Paris, et je suis désolé, c'est le langage qui a été employé par l'administration, qu'il y a ce transfert de migrants qui a été mis en place. Deuxièmement, on nous explique que ce sont pas des. Le gouvernement, hier à l'Assemblée, nous explique que ce ne sont pas des migrants, mais des sans domicile fixe. Sous-entendu, vous n'avez pas de cœur. Tout est faux. Et troisièmement, ce sont des élus locaux qui sont sommés d'assumer les absences de décisions politiques du gouvernement. Non mais vous vous rendez compte de ce que c'est? Et parallèlement à ça, je vous donne juste une chose, une décision, tout le monde s'en fiche, personne ne l'a vu. Le 2 février, le Conseil d'État a rendu une décision, il n'est plus possible de pratiquer ce qu'on appelle la non-admission en France. On ne peut plus expulser des migrants qui arrivent, par exemple dans les Alpes-Maritimes. Oui. Chaque année, il y a 30 à 40 000 migrants qui sont refoulés grâce au principe de la non-admission.
C'est fini.
Eh bien, c'est fini depuis le 2 février. Oui. Ça intéresse ou pas? Non mais pourquoi? Non mais c'est, voilà, 30 à 40 000 par an. Donc mais tout le monde s'en fiche.
Ouais, et puis ça témoigne aussi de l'incapacité de l'État. Ce type de bidouillage
montre bien à quel point l'État
est incapable de gérer les questions des flux migratoires.
Je pense qu'ils ne sont pas au courant. Et pour en connaître quelques-uns, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas.
L'impact, Pascal, l'impact migratoire de cette décision, l'impact
et ils se le disent entre eux, ils disent lui, il fait rien.
Là c'est très grave. Enfin bon, cette décision du Conseil d'État, tout le monde s'en fiche. Il y aura un impact.
Ça va être commenté. Mais cette décision est criminelle. La réalité, elle est là.
Mais qui s'en insurge?
Non, il y a eu des articles dans le Figaro et tout.
Peut-être de votre part, mais
bon, bref. Ce que vous devez savoir aussi, Serge Grouard ne me démentira pas, c'est que Orléans, déjà depuis des années, est une ville saturée
Mais bien sûr.
Par l'immigration bien illégale. Sûr. Il faut le savoir, ça.
Mais toutes les villes moyennes.
Croyez-moi, il n'y avait pas carence d'immigration illégale oui, à Orléans.
Parce que la question de la répartition de l'immigration est, si vous voulez, la solution qui a été inventée notamment par Bruxelles dans son pacte asile-immigration face à l'arrivée de flux migratoires dont l'État français, à l'instar de la Commission européenne, ne veut pas traiter. C'est-à-dire que ça témoigne quand même une chose, c'est l'impéritie des dirigeants européens et singulièrement d'Emmanuel Macron à réfléchir la question de l'immigration à travers celle des frontières. C'est-à-dire que parce qu'on n'arrive pas à contenir les vagues migratoires, parce qu'on n'arrive pas à traiter avec les pays émetteurs, parce qu'on n'arrive pas à expulser, on déplace le problème et on répartit l'immigration. C'est exactement ce qu'a fait Angela Merkel, par exemple, en Allemagne, c'est-à-dire qu'elle a réparti l'immigration dans un certain nombre de villages dépeuplés. Donc ce sont que des politiques conjoncturelles qui visent à répartir l'immigration.
Si je peux amender ce que tu dis, c'est pas on n'arrive pas, c'est un, on est complètement dépassé et on ne veut absolument pas régler la situation, puisqu'il y a une politique immigrationniste de la part de l'Union européenne et que Emmanuel Macron et le Premier ministre ne s'en cachent pas non plus et qu'il y a eu aussi des directives de passé pour mettre en région, en province, dans certains territoires, des personnes qui...
C'est pas que l'Europe.
Il y a une convergence des luttes entre l'Europe
qui ont été données. Donc c'est pas
la jurisprudence du Conseil d'État.
Mais oui.
C'est pas l'Europe.
Bien sûr.
Elle entérine avec beaucoup d'enthousiasme la politique.
Mais la jurisprudence du Conseil d'État rejoint la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a une concordance. Et la CEDH, en fait, tout ça, c'est une même communauté idéologique.
C'est la même idéologie.
Il nous reste 3 minutes ce matin. Exactement. Il y a eu un témoignage absolument bouleversant d'une survivante du massacre du 7 octobre qui était avec nous, Laura Blachman-Kadar, qui a écrit un livre avec Dominique Rouche aux éditions Robert Laffont. Elle a 35 ans. Elle était présente le 7 octobre. C'était bouleversant de l'écouter. Je vous propose de voir le sujet de Clotilde Payet.
6 longues heures de cauchemar, tapis dans une petite caravane, Laura, son mari et ses 5 amis ont attendu dans l'angoisse la plus totale, alors que le massacre se déroulait derrière leurs portes le 7 octobre.
Et on entend des gens hurler, vraiment, des gens hurler, des gens courir partout, essayer de sauver leur vie et les terroristes, avec des hurlements et courir après les gens et tirer de partout.
Les terroristes n'entreront jamais à l'intérieur, Laura se sent miraculée.
Pour une raison ou une autre que je ne comprendrai sûrement jamais, ils ne réussissent pas à ouvrir la porte de la caravane. Même quand ils tirent sur la caravane, ça passe à côté de mon mari, ça passe dans la climatisation.
Mais vers 12h30, les terroristes reviennent vers eux. Et pour Laura et ses proches, ils pensent que c'est la fin.
Et mon mari me regarde les yeux dans les yeux et il me dit « c'est terminé ». Donc il chuchote qu'il m'aime, je lui dis que je l'aime. Et là, c'est un regard qui veut tout dire et qui ne veut rien dire. Parce qu'on veut tout dire. Et on n'a rien à dire à un moment pareil.
Sauvée in extremis par l'armée israélienne, Laura découvre l'ampleur du massacre lorsqu'elle sort de sa cachette.
Quand les garçons ont réussi à ouvrir la porte de la caravane, on a vu le vrai massacre. Des dizaines de jeunes personnes étalées par terre.
Un traumatisme difficile pour Laura et son mari. La vie ne sera plus jamais la même qu'avant le 7 octobre 2023.
On est tous les deux toujours très perturbés de ce qui s'est passé. Et vraiment impossible d'essayer de guérir. Quand à chaque repas, on pense à nos amis qui sont toujours à Gaza.
Malgré cela, Laura croit encore à une paix possible en Israël.
Et vous pouvez réécouter évidemment cette émission sur cnews.fr si vous le souhaitez. Pendant une demi-heure, entre 10h et 10h30, elle est restée avec nous, c'était bouleversant.
Merci de passer ce passage, parce que plus personne ne parle du 7 octobre. Je vous le dis, hein, je l'ai tweeté là, à 19h30, sur France Info. On fait parler... quelqu'un qui travaille avec l'UNRWA et l'ONU, Madame Albanaise, qui accuse tranquillement Israël de génocide. Ils ne disent pas que cette femme est persona non grata en Israël parce qu'elle a déclaré que l'Amérique était entre les mains du lobby juif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce degré de perversion journalistique ?
Olivier Benkemoun, l'actualité est sombre et dramatique évidemment ce soir. Et je vais vous laisser la parole.
Peut-être. Je vais le faire dans le noir, peut-être. Bon, il y a une information très importante, je voulais vous dire. Une décision de justice qui peut-être va faire jurisprudence. Dans ce pays, quand vous qualifiez le Hamas comme auteur d'actes de résistance évident, vous encourez de la prison. Vous encourez désormais de la prison. Alors, prison avec sursis. C'est un jugement qui vient d'être obtenu par le JE, notamment. Muriel Wachnin, sa présidente, sera là pour vous expliquer pourquoi. Sans doute que ceux qui ont utilisé ce terme de résistant pour qualifier le Hamas et qui sont poursuivis vont avoir du souci à se faire et être poursuivis pour apologie du terrorisme.
Merci Olivier. Mickaël Thomas était à la réalisation, Guillaume était à la vision, Grégory Possidalo était au son, Benjamin No, Marwan Sahir, Guilhem Lafage était avec nous aujourd'hui. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Bonne soirée et à demain.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.